à ce moment-là du récit, ça fait 14 ans que Jacob travaille pour Laban, son beau-père. 14 ans. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, et puis après 7 ans, on lui a donné Léa. Alors, il a retravaillé 7 ans de plus pour Rachel, mais cette fois-ci, il s'est fait payer à l'avance. À la fin de la semaine, il a eu Rachel, et puis il a travaillé encore 7 ans. Pendant les 7 années, il va avoir 12 enfants. 11 fils et une fille. Là, c'est un record, certainement. Bon, avec 4 femmes. Benjamin, le dernier, arrivera dans les chapitres suivants, chapitre 35. Ça fait donc 14 ans qu'il travaille avec zèle pour son patron, qui s'est considérablement enrichi. Laban reconnaît que Dieu l'a béni à cause de Jacob, là, au verset 27. Et ce que Jacob confirme, versets 29 et 30, il lui dit « Tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau. Le peu que tu avais est devenu beaucoup maintenant. Dieu t'a béni avec moi. » Mais Jacob, lui, après 14 ans de travail, il ne possède rien en propre. Pas une brebis à lui. Alors, maintenant qu'il a terminé son deuxième CDD de 7 ans, il veut rentrer. Il veut rentrer chez lui, dans son pays. Mais Laban, lui, il ne veut pas voir ses dividendes diminuer comme ça, du jour au lendemain, et la bénédiction de Dieu repartir avec Jacob. Alors, du coup, il revient vers lui en lui proposant un « Écoute, maintenant, ok, tu veux un salaire ? Ok. Ok, quel est ton prix ? Dis-moi ce que tu veux et bon, je te le donne. Fixe-moi ton salaire. » Lors de ma première embauche, il y a quelques années de ça, mon patron m'a fait la même offre. Il dit, c'est quoi votre prétention ? J'avais réfléchi, vous pensez bien. Alors j'ai annoncé le montant. Il m'a dit, c'est bon. Sauf que moi, je parlais en net et lui en brut. Bienvenue dans le monde du travail. Je venais de me faire avoir de 25% au moins là-dessus. Mais Jacob, lui, il fait mieux. Il lui dit, tu me donnes rien. Si simplement tu consens à ce petit arrangement, il lui dit, écoute, donne-moi simplement de quoi pourvoir aux besoins de ma famille nombreuse, j'ai besoin juste de quelques chèvres, quelques agneaux. Écoute, je prends tout ce qui est tacheté, tout ce qui est bizarre, un peu rayé, voilà. Tout ce qu'on ne veut pas vraiment dans les troupeaux, tu me le donnes. Habituellement, la grande majorité des troupeaux sont blancs. Alors, j'ai trouvé une justification biblique de cela. Bon, bien sûr, on dit toujours que la laine blanche, que vous voyez, des brebis, des agneaux, blancs comme un agneau. J'ai trouvé dans le Cantique des Cantiques, Salomon décrit sa bien-aimée, et puis il lui dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis. Vous voyez un peu les choses. Qui remontent de l'abreuvoir. C'est pour ça que je pense que les moutons sont blancs. Parce que s'il avait dit « Tes dents sont comme le troupeau de Jacob, tachées, marquetées, rayées », ça ne le faisait pas aussi bien. Bon, vous me direz ce que vous pensez de mon appréciation là, des troupeaux blancs de Jacob. De son côté, Jacob, il fait un truc terrible. Il récupère toutes les brebis rayées, tachetées, et il envoie tout ce monde-là, avec ses fils, à 3 jours de marche. Il se dit, les brebis rayées, tachetées et marquetées risquent de faire eux aussi des petits... ça, c'est la génétique. Alors du coup, il enlève tout ça, il donne ça à ses fils, il met 3 jours de marche entre les deux troupeaux, comme ça, il n'y a pas de possibilité de...
Alors, Jacob se retrouve avec un troupeau tout blanc, ou tout noir, ou tout marron, avec des chèvres toutes marron. Mais rien de marketé, rien de rayé, rien de tacheté. C'est un petit peu comme si le concessionnaire de Nissan, qui vous payait par une commission, il vous dit, écoute, toutes les voitures bleues que tu vends, c'est pour toi. Okay? Et il n'y a pas une voiture bleue au catalogue. C'est quand même un peu rusé comme manière de faire. Et Jacob fait ça quand même. On dirait que lorsque vous avez un beau-père, c'est aussi son oncle, aussi tordu que Laban, comme patron, vous n'avez pas besoin d'un ennemi avec ça. Hein. C'est que, au verset 39, la Bible dit que les brebis entraient en chaleur et elles faisaient des petits rayés, tachetés, marquetés. Incroyable. C'est pas dans le catalogue, mais tout le monde choisit des bleus. Vous voyez la chose? Il a beau faire tout ce qu'il veut, Laban, le troupeau, va naître tacheté, marketé, etc. Alors, Laban revient, il dit, écoute, on change un peu les règles, maintenant tu n'as que les tachetés, d'accord? Et à ce moment-là, toutes les brebis qui naissent, tachetées. Il revient le voir, il dit, non, maintenant, on change. Maintenant, tu as les rayés qui sont à toi, d'accord? Et toutes les brebis qui naissent sont rayées. Il peut s'arracher les cheveux, tout ce qu'il peut faire. Le troupeau de Laban est en train de passer progressivement dans les mains de Jacob. 10 fois, Laban change les règles du contrat, mais 6 ans plus tard, la Bible dit, verset 43, « Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. » Et même les fils de Laban disaient, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père. » Et Jacob, Laban, il a changé de tête. Il pensait faire une bonne affaire faisant ce deal avec Jacob, et tout son troupeau, il le voit partir progressivement sous ses yeux vers Jacob. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné, dit Jacob. Dieu a fait justice à Jacob. Vous savez, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, dans l'église, dans les relations entre personnes, on fait des accords, plus ou moins formels. Et fréquemment, l'une des parties défaille. On a du mal, nous les hommes, à tenir parole. On aime bien aussi changer les règles pour qu'elles nous soient plus favorables. Peut-être le patron vous a fait miroiter une prime. Si vous atteignez les objectifs, la prime n'est pas là. Ou alors, elle a tellement fondu entre-temps. Ou le poste qui devait vous revenir est confié à un autre. Ou votre conjoint n'a pas respecté une partie de son engagement. Ou votre voisin, ou votre collègue, ou votre frère n'a pas tenu parole. Vous trouvez ça injuste? Vous savez quoi? Le propre de l'homme, c'est qu'il dit et ne fait pas. On dit les choses, on promet, on s'engage à faire des choses, et puis on ne tient pas. On n'a pas la capacité à tenir fidèlement nos engagements. Mais ce qui doit nous encourager, c'est que Dieu te voit au travail. Dieu nous voit au travail. Regardez ce qu'il dit dans notre passage, chapitre 31, verset 12. Il dit, c'est Dieu qui parle. Lève les yeux et regarde. Tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés. car j'ai vu tout ce que te fait Laban. J'ai vu tout ce que te fait Laban. Au verset 42, il dit, « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, qui m'aurait maintenant renvoyé à vide, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. » Et hier, il a prononcé son jugement. Dieu te voit et il fera justice. Mais toi, honore ta partie du contrat. La plupart du temps, quand l'une des parties ne respecte pas son contrat, on jette l'éponge. Mais regardez Jacob. Il a travaillé 7 ans avec ardeur pour avoir Rachel et on lui refile Léa. Et il s'engage à retravailler 7 ans, mais là, tout de suite, il a Rachel. Mais il fait véritablement les 7 ans maintenant. Et au bout de 7 ans, il a quand même 2 femmes. De 7 ans et 1 semaine, il a 2 femmes. Et il pourrait dire, bon, maintenant c'est bon, hein. Non, non. Il a signé pour 7 nouvelles années et il accomplit son contrat. Et c'est simplement au terme du deuxième contrat qu'il dit et qu'il envisage de repartir. Il lui dit, tu sais comme je t'ai servi. Quand il parle à ses femmes, chapitre 31, verset 6, il dit, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Il a mis tout son cœur. Regardez dans le chapitre 31, verset 38, il dit, « J'ai passé chez toi 20 ans. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai été point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait mes yeux. » Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, et j'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Tu dis, Jacob est en train de plaider, il dit, voilà, 10 fois t'as changé mon salaire, mais moi je suis resté. J'ai accompli ma part. Et Dieu a vu. Dieu a vu le zèle de Jacob et de son, envers le troupeau de Laban. Dieu a vu les conditions de travail, le froid, la chaleur. Il a vu son intégrité. Il a vu la persévérance. Il a vu la peine. Malgré le fait que Laban ait changé 10 fois son salaire, Dieu a vu la souffrance et le travail de Jacob. Et il a fait justice. Dieu a vu, Dieu a jugé, et il a donné le troupeau de Laban à Jacob. Notez quand même que Dieu lui a donné après 20 ans, et non pas après 6 mois. Et là, il y a une vérité quand même. C'est que Dieu nous attend un petit peu. Il met à l'épreuve, il teste notre engagement, notre fidélité, notre confiance en lui. Il faut noter aussi que c'est Dieu qui donne à Jacob le troupeau, et non pas Jacob par des techniques. Là, il n'est pas encore prix Nobel de génétique, hein. Quand il fait ses pluches là de branches, c'est des trucs de grand-mère qu'il utilise. C'est des recettes qu'on se passe de génération en génération. Une des recettes qu'on trouve dans le chapitre 30, au début du chapitre 30, c'est pour être plus fertile. Hein, vous savez, Rachel, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et puis son neveu Ruben a trouvé des mandragores. Alors, elle lui a dit, donne-moi les mandragores, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment pour la fertilité, c'est le top, quoi. Ça nous fait sourire, les mandragores, peut-être, mais si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'on propose les mêmes recettes. Si vous voulez un garçon, il faut manger des céréales le matin. Si vous voulez une fille, il faut manger sucré. Et si vous voulez un garçon, il faut manger plutôt salé. Et je vous passe le meilleur,
que le lieu et l'heure ne m'autorisent pas à vous donner. Pour Jacob, l'évolution de son capital, brebis, ne dépend pas entièrement de lui. Il se rend bien compte que les brebis doivent entrer en chaleur. Et puis, il faut qu'elles soient couvertes par un bouc. Et puis, en fait, il faudrait qu'elles fassent de préférence des petits tachetés, marquetés, etc. Ça fait beaucoup d'incertitudes. Comme les paysans sur la météo, ou comme les marchés boursiers, etc., ou comme les commandes d'Airbus, ou je ne sais quoi. Et donc, il essaie un truc de grand-mère pour favoriser le sort. Le truc qu'il a appris, c'est d'éplucher les branches et les mettre dans les auges, là, et là, par un phénomène bizarroïde, elles vont rentrer en chaleur. Mais Laban, lui, il change les règles. Il dit, maintenant, c'est les rayés, maintenant, c'est les tachetés que tu auras. Et mais à chaque fois, le sort est toujours favorable à Jacob. Et à un moment, il réfléchit, il se rend compte, tous ces trucs-là que je fabrique, là, toutes mes petites méthodes de grand-mère, c'est pas ça. C'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu. La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction, c'est pas le truc de grand-mère, c'est Dieu. Proverbe 10, 22 dit « Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. » Vous êtes peut-être victime de ce que vous appelleriez une criante injustice dans votre travail, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre quartier, immeuble ou je ne sais quoi. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Honorez votre part du contrat. Dieu vous voit dans votre travail. Mais la deuxième vérité que je voudrais voir ce matin avec vous, c'est que Dieu travaille pour nous. Dieu travaille pour toi. Même si Dieu n'est pas ton serviteur, mais ton maître, il travaille pour toi. Il travaille pour ton bien. Il travaille pour ton compte. Dieu travaille pour notre bien et il poursuit notre bien. Quand on cherche à comprendre le message de la Bible, je crois que une pensée qui doit toujours nous aider, c'est quelle est l'intention de l'auteur? Pourquoi est-ce que l'auteur écrit cela aujourd'hui? L'auteur, c'est Moïse, d'accord? Et quand Moïse écrit cela, Moïse, il est à la tête d'Israël dans le désert. Ils ont déjà quitté l'Égypte. Et il écrit ces choses, et il écrit cette histoire, et il l'a écrit avec beaucoup de détails. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que cette histoire de Jacob, c'est l'histoire d'Israël. D'ailleurs, Jacob va devenir Israël, va changer de nom au chapitre 32, chapitre suivant. Jacob, il est en exil en Mésopotamie. Israël était en exil en Égypte. Jacob a été une bénédiction pour Laban. Son troupeau a été considérablement augmenté. De la même manière que Israël a été une bénédiction pour l'Égypte. Vous vous souvenez avec Joseph. Ça va venir dans la fin du livre de Genèse. Joseph a sauvé l'Égypte comme il a sauvé son peuple. Il a été une grande bénédiction pour l'Égypte. Jacob a souffert de la part de Laban, comme Israël a souffert de l'injustice de Pharaon. Et Pharaon a aussi changé à plusieurs reprises le salaire. Vous vous souvenez, il a dit, vous devez faire des briques. Et pour les briques, il fallait la terre, la paille. Et puis à un moment, il a dit, vous allez encore faire des briques, mais cette fois-ci, on ne vous offre plus la paille. Allez vous la chercher vous-même, mais ce sera toujours le même nombre de briques. Il a aussi changé leur salaire. Et puis, Jacob est arrivé seul à Charan, chez Laban. Mais maintenant, il a une famille de 12 enfants. Lorsqu'Israël est arrivé en Égypte,
ils étaient 70. Mais quand ils ont quitté l'Égypte au moment de l'Exode, il y avait 600 000 hommes. Lorsque Jacob est arrivé en exil, il n'avait rien. Mais lorsqu'il quitte, il est très riche. Il a un troupeau extraordinaire qui fait blêmir Laban. Lorsqu'Israël est arrivé en Égypte, il n'avait rien. C'est pour avoir à manger qu'ils sont venus en Égypte. Mais lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit en Exode 12, versets 35-36, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Dieu a pris tout ce qui était à l'Égypte et l'a donné à son peuple Israël. Alors Jacob se met en route pour Canaan. Et il emporte malgré lui, on le voit dans la suite du chapitre 31, les téraphimes de Laban, les faux dieux. Les téraphimes, c'était des petites statuettes qui étaient à la fois source de fécondité, selon certains commentateurs, mais surtout, ils étaient en fait un peu le symbole de la propriété physique. C'est-à-dire, c'était quand on avait les téraphimes, on était les héritiers. De la famille. Et là, c'est Rachel qui a embarqué les téraphimes de son père parce qu'elle voulait garder l'héritage pour elle et pour sa famille. De la même manière, lorsque Israël a quitté l'Égypte, ils ont embarqué dans leur tête, dans leur cœur, les idoles de l'Égypte et notamment le veau d'or. Laban, quand il a vu Jacob partir, il l'a poursuivi. Mais il n'a rien pu lui faire. La Bible dit que Dieu l'a arrêté. Dieu lui a dit, tu ne feras rien de mal à Jacob. Et quand Israël a quitté l'Égypte, Pharaon l'a poursuivi. Mais là encore, Dieu a arrêté Pharaon et lui a empêché de faire du mal à l'Égypte, à Israël. Et il a même noyé Pharaon et son armée dans la mer. Vous comprenez? C'est leur histoire. Pourquoi est-ce que Moïse rapporte toute cette histoire avec beaucoup de détails? C'est parce que c'est l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en train de marcher de la même manière. Et ils ont aussi des craintes. Ils ont peur ils ont du mal à faire confiance à Dieu. Et Dieu lui dit, mais regardez ce que j'ai fait avec Jacob. C'est votre histoire, je suis en train de reproduire la même chose, puissance 10. Faites confiance. Faites-moi confiance. Si vous appartenez à cette postérité spirituelle, alors c'est aussi votre histoire. Faites-lui confiance. Honorez votre part du contrat. Et puis Dieu se révèle à Jacob en lui disant dans le verset 13, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Ça, c'est cet épisode du chapitre 28. Vous vous souvenez, c'était le moment où il voit les anges monter et descendre du ciel là, et Jacob fait une vraie expérience avec Dieu à ce moment-là. Et il fait confiance à son Dieu. Et Dieu s'est révélé le Dieu à Bethel s'est révélé de cette manière à Jacob. Il lui a rappelé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il lui a promis trois choses. Il lui a promis une postérité. Il lui a promis un pays. Et puis il lui a promis une bénédiction. Pour avoir un troisième P, une prospérité, une bénédiction. Il est arrivé tout seul à Laban, à Charan, et il a rencontré Rachel, et il a eu une postérité. Il est arrivé, il n'avait rien, il repart avec un énorme troupeau. Dieu a été fidèle. il accomplit cette deuxième promesse sur sa bénédiction, sur la prospérité. Et puis enfin, il lui donne le pays et le conduit vers le pays. Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle dans ses engagements. Malgré le fait que Jacob y cherche encore à tricher, Dieu, lui, il est fidèle. Et discrètement, il rappelle à Jacob que Jacob lui a fait un vœu solennel. Il lui dit « Où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu ?» Ah, Jacob se souvient, ouais, le vœu, c'était quoi? C'était « Si Dieu est avec moi, s'il me garde dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Et là, il réalise, effectivement, Dieu a observé toute sa part du contrat. Et moi? Et là, il s'attache à son Dieu. Il s'attache davantage à son Dieu. Pour Israël dans le désert, vous voyez l'encouragement que ça représente, cette histoire. Dieu est en train de dire, je suis avec vous. Je vous ai fait prospérer en Égypte. C'est-à-dire, toutes les années difficiles, Dieu les a valorisées. Toutes les années difficiles que vous avez pu vivre, Dieu va les utiliser pour votre bien. Il prend soin de vous matériellement, mais il vous fait prospérer dans votre âme plus que tout. Au travers de ces années-là, de ces 20 ans passés à Charan, ce n'est pas simplement une prospérité financière que Jacob a obtenue. C'est la prospérité de son cœur, plus que tout. C'est-à-dire que, non seulement il est devenu plus riche, mais surtout, Jacob est devenu meilleur pendant son exil. Et il est en bonne voie de guérison quant à son caractère supplanteur, tricheur, menteur. Et nous ? Nous sommes en route vers le pays de la gloire éternelle, pour peu que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous recherchons un travail pour pourvoir aux besoins, à nos besoins et à ceux de notre famille. Ça, c'est légitime. Et dans nos engagements, on s'efforce de tenir nos paroles, parce qu'on veut tenir parole. La chose, c'est que chacun d'entre nous, on a tous failli dans notre parole. Chacun d'entre nous, on a promis des choses qu'on n'a pas été capable de tenir. Les vœux qu'on s'échange au mariage, le contrat même de travail qu'on a signé pour tant d'heures et on se dépêche d'oublier le nombre d'heures qu'on devrait faire. On ne tient pas parole. Et vous voyez ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, pendant qu'on marche, au travers des difficultés, des souffrances, c'est que Dieu il est en train de changer nos cœurs. Et une des choses qu'il nous fait réaliser, c'est qu'on n'est pas capable de tenir nos paroles. On n'est pas capable de tenir nos engagements. Et le pire, c'est devant Dieu. On dit, Seigneur, je te suivrai toujours, toute ma vie. Seigneur, je vais lire ta parole tous les jours. Et puis, Seigneur, je vais t'obéir maintenant. Et puis, on n'arrive pas à tenir. Et ce que Dieu est en train de faire comprendre à Jacob, ce qu'il est en train de faire comprendre à son peuple dans le désert, et ce que Dieu essaie de nous faire comprendre aussi à nous, c'est qu'on n'arrivera pas à tenir nos engagements. On est comme ça. Et c'est-à-dire que la justice dont on a tellement besoin, la chose qui est la plus importante au regard de Dieu, nous ne pouvons pas l'obtenir par nos propres efforts. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on l'obtienne simplement par la foi. En faisant confiance à Jésus-Christ, il a accompli et il a satisfait la justice de Dieu à notre place. Sa vie à lui est parfaite. Et il dit, ma vie parfaite, je te l'offre, je te la donne. De sorte qu'on peut retrouver une pleine paix, une pleine sécurité la chose qui nous demande, qui est la plus importante, nous ne pouvons pas l'obtenir par nos efforts, par nos travails, encore moins par nos magouilles et nos tricheries. La justice de Dieu nous fait tellement défaut. Nous avons échoué dans notre propre part du contrat. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et il a satisfait notre part de contrat. Il nous offre un plein pardon. Il nous offre sa justice. Et nous pouvons être pardonnés. Nous pouvons être réconciliés avec lui. Nous pouvons vivre dans sa paix. Aujourd'hui, et pour l'éternité, simplement couvert par sa justice. Lui a tenu parole, il a aussi tenu parole à notre place. Que Dieu soit loué et béni.